Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou campuslille.com. Au sommaire de cette émission, nous avons rendez-vous avec notre motarde en or, Patricia, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Alors un menu très étoffé encore dans cette émission aujourd'hui. Nous allons parler trail avec Nord Enduro Trail qui propose des boucles de 2 jours d'off-road dans la région.
Oui, et sans dévoiler la suite du programme, en fait j'ai pensé que ce serait d'un très bon enseignement pour tous de pouvoir aller visionner toutes les vidéos qui sont sur le site de Nord Enduro Trail pour vous préparer.
Je pense que ça va nous intéresser, ça.
Voilà, tout Patricia. À fait.
Voilà. Alors, ensuite, le 9 juin, ce sera Albert on the Rock, une journée concert et rassemblement motard.
Oui, un petit rappel hein, pour tous ceux qui voudraient aller faire une belle balade dans la région d'Albert. C'est une superbe route et il y a pas mal de choses à voir qui sont intéressantes. Et en plus, l'après-midi, il y aura donc ce festival de rock.
Voilà, le 9 juin, une parade moto à Fâche-du-Ménil.
Oui, donc c'est au profit de l'Amicale des handicapés et donc il y aura des beaux véhicules aussi. Nous attendons Serge qui doit participer à l'émission. Nous espérons qu'il va arriver.
Il arrive, voilà. 2 et 3 juin, concentration de véhicules anciens lors de la journée Rockabilly à Honin.
Ouais, une super journée, je pense, qu'il va, parce que les groupes, ben moi je les ai un peu écoutés, j'aime bien, et puis j'aime bien le batteur d'un des groupes qui est excellent. Donc voilà, un beau rendez-vous avec aussi des véhicules des années 50 et 60, impeccable pour aller se balader dans la Vénois.
Et le gros morceau de cette émission, si je te dis l'Inde, Himalaya, Cachemire, Tibet, ça te fait penser à quoi? Donc tout de suite, tu dis, c'est envies.
À qui qu'un coup d'étoupale qui va aller faire une balade d'abord.
Voilà. Eh bien, Patricia, je te présente une bande de motards qui se prépare à vivre une aventure exceptionnelle, un road trip de 2500 km sur le toit du monde, à la conquête des sommets de l'Himalaya, Royal Enfield. Ils sont... Ah, oh, c'est merveilleux ça, Laurent. Voilà. Alors Christophe, Jean-Michel, Nicolas... Albert, il y a aussi il y a 2 femmes qui vont faire partie de cette équipe. Hein. Vous êtes 14 personnes à partir, dont 2 femmes. Messieurs, bonjour. Messieurs, madame, bonjour. Il faut dire bonjour, hein, bonjour. Christophe.
Bonjour. Alors,
qu'est-ce qui vous a appris de partir là-bas, de décider un tel voyage? Parce que c'est quand même compliqué. Hein.
Écoute, c'est quelque chose qu'on avait dans l'idée depuis déjà un bon bout de temps. Le problème, c'est qu'il a fallu que les gens s'y mettent aussi, étant donné que... On ne voulait pas le faire avec les organisations qui sont faites en France, parce que ça vaut la peau du cul. Et moi, je voulais en sortir un truc pas trop cher. Donc, en voulant sortir un truc pas trop cher, il fallait trouver aussi des gens qui voulaient me suivre, étant donné que ça va être organisé par des Indiens.
Tu aurais pu le faire seul, finalement? Ou avec Béatrice, ta femme?
Pour l'Himalaya, c'est quasiment pas faisable. Or, t'incruster dans un groupe d'Indiens. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué dans ces cas-là.
D'accord. Quand tu dis moins cher, c'est le...
Bah, écoute, là,
on connaît hein, des organismes français qui
nous, avec l'avion, ça revient à peu près à 1500 euros avec l'avion.
Ouais, c'est vraiment pas très cher.
Tandis que ailleurs, pour à peu près la même chose, il faut compter 3000 sans l'avion, donc ça fait 3500.
Oui. Jean-Michel Bonneau, bonjour.
Salut.
Tu parles dans le micro.
Ouais,
voilà,
salut.
Tu me vois pas bien, mais c'est pas grave. C'est surtout le son à la radio. Jean-Michel, tu fais partie de l'équipe.
Bah ouais, on s'est décidé. Comme on est en retraite maintenant, c'est l'occasion de faire un bon voyage.
Voilà, ça t'es pas trop peur.
On est à
14 jours du voyage du départ.
Non. On est un petit peu anxieux quand même.
Je pense que vous êtes tous un petit peu anxieux quand même. Nicolas, pareil.
Ah ben j'y pense tout le temps.
Toi, t'y penses jour et nuit? Au soir.
Mon voyage a déjà commencé dans ma tête.
Voilà. Ouais. Donc, Albert, pareil. Alors, Albert qui fait partie aussi des 14 personnes.
C'est ça. Et puis, effectivement, ce matin, ça réveillait déjà. Hein. C'est vrai qu'on y pense. Et puis, on voyait Jean-Michel, qui est arrivé en Norton. Et je me disais, on n'est pas loin de la Royal Enfield finalement. Et on était déjà dedans. C'est pas mal. Mais on y pense beaucoup.
Et l'une des 2 femmes hein, qui fera partie aussi du groupe, Béatrice, ça va, pas trop peur quand même? Parce qu'on a vu des images hein, quand même, on était sur des vidéos, hein, on a vu des surtout au Ladakh hein, là-bas quand on est à 5800 mètres, hein, ça fait un peu, ça fait chaud quoi hein, quand même.
Quand il a fallu s'inscrire, j'ai dit oui tout de suite. Après avoir vu les vidéos, j'ai fait...
Et maintenant, tu dis peut-être que
moi, c'est le ravin qui me fait peur. Donc, il n'y a pas une journée où je n'y pense pas et je me dis bon... J'espère que ça va aller.
Voilà, très bien. Eh bien, on va parler de ce fabuleux voyage juste après le premier morceau de musique. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Merci pour l'intro, là. Hein. C'est merveilleux.
Et puis, on a le temps de s'enrouler un petit, là.
D'accord. Voilà, on va se mettre dans l'ambiance. 2500 km sur le toit du monde. Donc on passe. Christophe, c'est toi qui as fait le parcours. Enfin, t'as pas vraiment fait le parcours parce que c'est l'Indien hein, qui était là-bas en Inde qui t'a proposé ce parcours.
On avait, non, en vrai dire, on avait plusieurs choix. Évidemment. Pour exemple, dans l'île de Nicolas, mais c'était aussi un peu la mienne au départ, c'était de faire. On ne devait pas partir de Delhi, effectivement, on serait parti de Manali pour aller à Srinagar ou inverse.
Pour préciser un peu le parcours, que c'est, parce que l'Inde, c'est grand.
Hein, oui, alors c'est tout au nord.
C'est tout au nord.
L'Himalaya, c'est-à-dire qu'on va longer la frontière pakistanaise.
Voilà.
Et longer la frontière tibétaine.
Alors, chinoise. Bah, du coup, enfin, bon. Qui est envahie par la Chine.
Donc, on va démarrer. Mais on va démarrer de New Delhi. Donc ce qu'il y a, c'est que les deux premières journées, donc c'est quand même 500 bornes à 70 ou 80 à l'heure, donc 10 heures de bécane, sachant que c'est aussi la plus mauvaise époque, c'est-à-dire que là en ce moment il fait 45 degrés à New Delhi, donc ça peut aller jusqu'à 47. Donc 47, c'est-à-dire que là on va démarrer avec des trucs à 45 pendant 10 heures de bécane pour arriver peut-être là-bas en haut au Ladakh où il risque de neiger et geler.
Donc en fait, New Delhi, c'est pour les gens qui ne connaissent pas trop. Hein,
c'est la capitale.
C'est la capitale. Ça se situe plus dans au nord hein, qu'au sud. Et nous, alors je dis nous parce que je suis aussi de la partie américaine,
On a les villes.
Voilà. Voilà. On a donc 600 km. C'est une étape de liaison en fait.
Oui, c'est
une étape de liaison.
Le premier jour.
Et le parcours commence vraiment à Jammu.
Jammu. Hein,
c'est là que ça commence. Voilà.
Bah, dès qu'on avait commencé à arriver à Srinagar, là c'est 1500 mètres d'altitude déjà. Donc là on va commencer à passer des cols, donc la Zogila, ils sont pas très hauts, mais ils sont quand même spectaculaires. Voilà. Donc des cols à 3500, enfin, bon, pour nous ça ferait beaucoup ici en France, mais faisons là-bas c'est pas si haut. Apparemment le plus haut col, alors selon les machins, c'est 5600 ou 5360. On va dire c'est certainement voilà, plus 5360.
Donc on continue ce parcours effectivement. Donc là on longe la frontière pakistanaise. Un peu aussi de Afghanistan. Tant. Voilà la frontière Prout alors. Et de Chine aussi. Oui. Voilà.
Tout à fait. À un moment, on va être au bord d'un lac qui s'appelle le Pangong Lake. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est en Chine, une partie qui est. Donc on est à je sais pas combien de la frontière. Je crois que c'est 30-40 km.
Ouais, hein, à peine, comme à peine, ça. Ouais.
Donc on va longer cette frontière-là aussi.
Bon, il y a aussi un moment pour s'adapter, parce que 5800, je pense que la route la plus haute et qui a été où on peut rouler, c'est 5600 mètres, je crois.
C'est ça, ouais, hein? C'est la Numbra Valley, ouais.
Ouais. Mmh. Et donc là, il y a un problème d'oxygène. Hein,
bien avant, au-dessus de 3000. Au-dessus de 3000, on commence à avoir des gros soucis.
Voire 2500 pour certaines
donc,
personnes.
Donc, il y a des tas... Là, on s'est renseigné hein, pour essayer de combattre le problème de je ne sais pas comment ça se passe.
C'est le mal aigu des montagnes. C'est-à-dire que quand on a...
Des vertiges, des...
Ah non, c'est-à-dire qu'il manque d'oxygène au cerveau. Donc, on va descendre en dessous de 90% d'oxygène dans le sang. Pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à des œdèmes cérébraux. Etc. Et il y a au moins 1% de la population qui est atteint très gravement par ça.
Ah oui, et donc.
Donc l'idéal.
Vous n'étiez pas au courant.
Non, c'est vraiment trop cool comme voyage.
Voilà.
Non,
c'est en bien. Fait, c'est la dernière émission de la Miche.
Voilà. Donc, Voilà, c'est la frontière vegan. Voilà, j'ai trouvé. Voilà.
Mais il me semble, Christophe, tu m'en avais pas parlé.
Non, pas tout avant. Non, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas parlé non plus. Ah, je te rassure.
Bon. Donc, arriver sur ces routes à 5800 mètres, ce sont des routes qui sont très pratiquées hein, par les camions, tout ça. Il y a de la circulation, en fait. On pourrait croire que non, on est seul quand même.
Bah, moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment très pratiqué, mais c'est quand même assez impraticable, hein, comme certaines pistes. Hein.
Là, ce sont des routes qui sont bloquées par la neige, plus de six mois dans l'année. Alors ça dépend, ça roule plus ou moins, mois de mai, mois de juin, enfin ça dépend des années à vrai dire. Et donc c'est quand même un truc qui permet de ravitailler tout le Ladakh, parce que la seule façon d'y aller pour eux c'est l'avion ou ces routes qui ne sont praticables en gros que mai-juin jusqu'en septembre-octobre.
Alors est-ce que juin c'est une bonne saison pour aller là-bas faire ce trip?
Alors ça dépend ce qu'on veut. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait à partir du 15 août. Là,
c'est plus cher.
Etc. Non, c'est pas plus cher. On l'aurait eu au même prix. Hein. C'était pas ça le problème. C'est parce que nous, tu sais qu'après, il y a la braderie de l'île, il faut y être. Donc,
ça.
J'adore les choix.
Ah oui, le choix était terrible.
et comme on partait du New Delhi, il faut essayer de le faire avant la mousson.
D'accord. Parce que là-bas, on estime 5800 mètres, il y a de la neige. C'est pas possible autrement.
S'il pleut, là où il neige, ça c'est sûr. Voilà. On y a droit. Mais je crois qu'on y aura droit. Juin, souvent, il y en a quand même.
Et donc, on a vu sur Internet hein, des vidéos hein, de motards qui ont fait ce trip. Alors, peut-être pas tout à fait le même parcours, mais c'est quand même assez hard.
Hard, voilà, si tu veux, c'est pas des routes où
il y a des guides à passer.
Voilà, c'est ça. C'est parce que nous, on va arriver exactement à cette période. C'est pour ça que la route idéale pour celui qui veut pas être emmerdé, c'est le 15 août. Parce que là, il y a la fonte des neiges, donc des glaciers, des machins. Et donc, il y a beaucoup de routes, voire même coupées totalement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de fonte que la route, elle part avec.
D'accord. Donc il n'y a plus de route.
C'est exactement. Oui, donc ils doivent remplir.
Il y a des journées entières avec des étapes sur la piste. Il hein. n'y a pas de route, c'est des caillasses.
Voilà. Et donc les motos sont adaptées, les Royal Enfield, pour ce type de route.
Je pense qu'un GSX-R, ça doit être plus compliqué pour y aller.
Ah, quoi
je pense qu'un GSX-R, ça doit être beaucoup plus compliqué.
Voilà. Bon, ben, on passe à un morceau de musique et on va parler un petit peu justement des routes. Parce que là-bas, on roule à gauche. Hein.
À ras des ravins.
On roule à gauche.
Colonie britannique.
Et cette première étape. Donc New Delhi après de 600 km hein. Bon je suppose que la circulation elle est pas très on doit faire des moyennes de 70 km/h.
Pas beaucoup plus pourtant c'est les plus grandes routes qu'il y a là-bas en Inde hein, quand même hein. C'est ce qu'il y a de mieux hein.
Donc sortir de New Delhi qui est quelque chose une ville alors là il y a 27 millions d'habitants
mégalopole tout à fait
ça c'est pas chose à mon avis pas chose facile.
Non, c'est pour ça qu'on va partir très tôt le matin.
Voilà, très bien. Allez, bon, on passe à un morceau de musique et on se retrouve après sur les routes de l'Inde.
The song from tongues of melting graves.
La conquête des sommets de l'Himalaya en Royal Enfield, c'est ce que vont faire 14 personnes, dont deux femmes. Voilà, Béatrice, tu sais, j'ai regardé la météo aujourd'hui, il fait 42 degrés à New Delhi.
Oui.
Ça va, c'est pas non plus, ça fait pas peur pour la chaleur.
Bah par rapport à aujourd'hui chez nous, oh, ça va peut-être pas faire beaucoup en plus.
Que quand tu vas atterrir là-bas à New Delhi,
non, je crois que ça va être quand
plus
même
plus la population, c'est une fourmilière en plus cette ville.
Quand on va atterrir avec notre équipement de moto, nos bottes, notre veste de moto prévue pour aller en haut de l'Himalaya à -5, alors, et qu'on va arriver dans 40 degrés.
Comment vous allez faire?
C'est vrai que
c'est un gros souci.
Ça va être un problème.
Parce que faut effectivement avoir du vêtement pour la chaleur, mais aussi des vêtements pour le froid.
Mais ouais. Je trouve que moi c'est vraiment bien le problème dans nos rencontres. Hein. On s'est rencontrés quand même avant pour ce périple et on se dit bon voilà, il faut tout prendre en fait. Hein. Il faut prévoir pour le chaud, il faut prévoir pour le froid et on se dit ben ouais, sauf qu'on n'a qu'une moto et ça va pas être si facile que ça. Et il faut se protéger quand même parce que la première étape c'est New Delhi effectivement et venir jusque au pied de l'Himalaya. Mais c'est la circulation, c'est quand même des frappadingues un peu et on se dit il faut quand même se couvrir. Comment on va faire? C'est la grande aventure.
Il faut quand même jouer la sécurité aussi. Ouais.
Alors le problème, c'est que dans l'avion, bah, les bagages, il y a énorme. Hein. La dimension des bagages, tu ne peux pas prendre une valise, une grosse valise. Donc on est obligé...
23 kilos quand même.
Hein, 3 kilos.
23 kilos, je veux dire.
Oui, oui, mais c'est limité en le format, quoi, je veux dire.
Ça va aller, voilà. On va mettre ça dedans.
Voilà. Et donc, on ne peut pas prendre... 36 000 choses, c'est pas possible. Et d'abord le casque, hein, parce que il faut remettre son casque, ça prend déjà de la place dans le sac.
C'est pas au clair, je vois Jean-Michel qui sourit parce qu'il a dit que de toute façon il est rentré dans l'avion avec le casque sur la tête en disant que
s'ils
disent non, c'est pas en bagage à main, je le mets quand même sur la tête, ils pourront pas m'interdire. Mais t'auras la classe.
Moi, c'est mon bol alors. Ça fait 40 ans que je roule avec, donc ça va pas me changer.
Bien, ah oui. Ah,
on parlait de sécurité, donc Jean-Michel part en bol.
Voilà, en bol. Donc ça veut dire que vous arrivez donc là-bas à New Delhi, il fait 42 degrés, donc avec les bottes de moto dans l'avion, hein, vous allez devoir les mettre parce que sinon il n'y a plus de place dans le sac. Et les gros pulls quoi, hein, et c'est pareil, on aura ça sur soi. Et donc on va arriver là-bas à 42 degrés, ça va nous faire un changement quand même.
Bah, on va sentir la transpi, hein, surtout voilà. Je pense les premiers jours. Hein. Voilà. Mais ça devrait se calmer après en montant en altitude au fur et à mesure.
Et après c'est l'inverse. Au contraire, là, il faut se couvrir.
C'est ça.
Nicolas ?
Oui, c'est sûr, c'est tout l'enjeu de savoir avoir à la fois. Il faut avoir tout ce qu'il faut sur soi pour les différentes températures. Il y a des grosses variations de température. Même pour rouler, hein, on ne roule pas de la même façon quand il fait 40 degrés que quand il fait -5. Donc, il faut des gants différents. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on a un petit peu phosphoré avant pour savoir comment faire. Mais bon, après c'est l'aventure. Hein.
Bon, si vous avez un peu renseigné sur ce qu'on mange là-bas.
Du riz.
Alors, est-ce qu'il faut faire...
Et surtout du riz. Et des piments.
Alors, pour la boisson, est-ce qu'on mange, alors, est-ce qu'il faut faire et pas faire? Là,
du riz dans, au Ladakh, il n'y en a pas. C'est de l'orge. Donc, c'est des bouillies d'orge. Donc, du riz, il y en a effectivement à Delhi, mais après, il n'y en a plus. Ou alors, ils commencent à en manger.
Ils mangent quand même pas que ça, quand même.
Ben, ils mangent pas grand chose. C'est pour faire un régime, c'est pas mal le Ladakh. Ouais, hein.
Ouais, d'accord. Ouais. Oui. Et alors, du côté boisson,
C'est assez exotique. Il y a une espèce de bière, c'est du chang. Donc, c'est un truc avec aussi de l'orge fermentée, avec voilà. Et après, dans le thé, ils mettent du beurre salé de yak. Donc, c'est spécial aussi. Donc, il n'y a pas de bistrot, hein, ça va être un problème. Hein, c'est sûr.
Dans les villes, il y en a quand même, hein, je te rassure.
Ouais. Donc, il y a des choses à pas faire, c'est-à-dire boire de l'eau comme ça, n'importe quelle eau. Là,
l'eau, c'est pareil, il faut faire attention. Ouais.
L'eau et les fruits et légumes.
Alors, eau et fruits et légumes,
tout ce qui n'est pas cuit.
Si c'est cuit, c'est pas grave. Mais cru,
alors, les glaçons aussi, il faut faire attention aux glaçons.
Pas de glaçons.
Pas de glaçons, voilà, parce que sinon, c'est malheureusement la.
La touriste.
Voilà, c'est. Voilà. Justement, on parlait
de. Il faut se laver les dents avec de l'eau en bouteille.
Il faut se laver les dents avec de l'eau en bouteille. Ouais. D'accord, oui. Ouais. Et puis aussi, vous allez prendre combien de caleçons pour là-bas, pour 15 jours?
Et c'est les chaussettes qu'il faut surtout, oui.
Et du coup, le caleçon, il y a un grand blanc, disons.
C'est les chaussettes.
C'est vrai que c'est la question
parce
principale.
Une fois
qu'on a réglé ça, c'est bon.
On a vu que c'était le principal souci des Européens, enfin, des gens qui arrivent là-bas.
C'est ça, garder les fesses.
C'est choper tout de suite la touriste. Hein. Et après, tu l'as pour les 15 jours. Hein, là. Oui, Patricia.
Oui, j'aimerais poser une question à Christophe. Les échanges que tu as eus avec justement ce sont des organisateurs indiens qui, parce que classiquement, quand on a évoqué à plusieurs reprises les voyages qui étaient organisés, c'était effectivement, je dirais, des Européens pour la plupart. Et les contacts que tu as eus avec les organisateurs indiens, justement au niveau encadrement, tu as eu aussi beaucoup de conseils ou vous allez avoir tout un accompagnement, une aide à l'intendance?
Alors là, il y a un guide qui va aller devant, un anglophone, hein, j'entends bien, pas de francophone. Hein. Donc un guide à moto qui passera devant. Derrière, loin derrière, enfin, s'il arrive à suivre ou pas à suivre, il y aura une sorte de grosse camionnette 4x4, un gros 4x4, qui prendra une partie des bagages. Et dedans, il y aura donc un mécanicien avec. Oui. Si jamais quelqu'un a un problème, il pourra toujours prendre une moto. L'autre, il pourra monter dans la bagnole, au pire. Et dedans, il y a toutes les pièces détachées. Si tu viens casser un guidon, une jante, je ne sais pas moi, etc.
Oui, et de l'oxygène technique.
Tout ça, c'est prévu.
Et de l'oxygène aussi.
Et de l'oxygène aussi.
L'oxygène, c'est pour ceux qui vont très mal supporter les 5800 mètres.
Apparemment, c'est quand même assez compliqué, le mal aigu des montagnes. Moi, j'ai vu des trucs, c'est quand même pas sympa. Hein, je veux dire, celui qui l'a, c'est compliqué. Alors, il y a des médicaments extraits pour ça, des trucs. Alors nous on le fait dans le bon côté, donc on va commencer tout doucement jusqu'à aller.
Un peu plus progressif que dans l'autre sens.
Parce que théoriquement ils te disent tu ne dois pas dépasser 500 mètres par jour de dénivelé d'altitude pour monter. Mais je veux dire que nous quand on sera arrivé à aller à 3500, on va tout de suite passer le Kargun là, qui est théoriquement à 5360 mètres.
Donc là c'est au Ladakh.
Ladakh, oui.
C'est la capitale.
Oui, là c'est la capitale du Ladakh. Mmh. C'est justement toute cette région qui n'est accessible que l'été après la fonte des glaciers.
Bordel, c'est bouddhiste, non?
C'est du bouddhiste tibétain, ouais. Mais c'est vraiment, tu te croirais au Tibet, c'est exactement la même chose, ouais. À part qu'ils sont de l'autre côté.
D'ailleurs, les Tibétains qui sont pourchassés en Chine, puisqu'en fait les Chinois, ils mettent dans les villages tibétains, ils mettent des Chinois, et du coup, ils sont minoritaires, donc ils se barrent et ils viennent au Ladakh. Et le Ladakh, c'est un peu le refuge des Tibétains, d'ailleurs le Dalai Lama, il est passé de l'autre côté, tout ça, il est au Ladakh. Donc il y a ça, et de l'autre côté à Srinagar en ce moment c'est un petit peu chaud parce que depuis la séparation de l'Inde et du Pakistan, cet endroit-là est revendiqué, donc c'est le Cachemire, Srinagar, la capitale du Cachemire, et c'est revendiqué par le Pakistan qui est juste à côté. Ces musulmans, les populations se radicalisent et donc l'armée est omniprésente pour maintenir, mais ils font des opérations contre l'armée indienne. Donc c'est très très tendu et donc parce qu'en fait l'Inde veut conserver cet endroit parce que l'Himalaya c'est d'abord un réservoir d'eau pour toute son immense population. Et puis c'est aussi historiquement, il n'y a qu'une centaine d'années où c'est musulman, mais historiquement c'était le territoire des Sikhs et les temples Sikhs et tout ça, donc il y a une partie de leur histoire qui se situe à cet endroit-là. En plus c'est une ville magnifique, hein. Srinagar c'est une cité lacustre au pied de l'Himalaya, on voit la montagne avec les neiges éternelles au pied, il y a des bateaux sur le lac, ils habitent il y a des maisons, houseboats. Donc, mais par contre, on ne pourra pas y traîner parce que c'est un petit peu tendu.
Justement, c'est pas trop risqué de se balader par là en ce moment là, avec justement ces événements qui se sont produits il y a quelques jours là.
Ben, en gros, nous, on a un casque sur la tête, on voit pas si on est des touristes ou pas. Il y a beaucoup d'Indiens qui font du tourisme en moto maintenant. Surtout en Royal Enfield. Nous, on va arriver tard le soir, puisqu'on aura fait la route avant de Jammu pour y arriver. Et on partira très tôt le matin parce que c'est pareil, il faut faire la route pour aller sur Kargil. Et donc là, ça va commencer à devenir. Les choses sérieuses vont commencer. Donc, normalement, ça devrait aller. Mais le seul truc, c'est qu'il y a un couvre-feu. Donc, il faut que les heures d'arrivée soient compatibles
avec
ça.
C'est sympa.
Ouais.
C'est une superbe aventure, quand même.
Exactement. Tu auras des choses à raconter à tes petits-enfants.
En fait, on a un t-shirt de super-héros au retour parce que si on échappe à la circulation de Delhi.
au malaise des montagnes.
La tourista.
Aux djihadistes, aux extrémistes, ouais. La tourista et aux routes de l'Himalaya. Quand même, je pense qu'après, je pense que tu vois plus la vie de la même manière. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, il faut effectivement tenter l'expérience. Hein.
Voilà. Donc on va passer un morceau de musique et après on parlera des papiers, hein, parce qu'il faut un visa, le passeport, il faut le permis international, on parlera aussi des langues, parce que j'ai vu qu'il y a 22 langues reconnues là-bas en Inde. Et on parlera aussi des médocs, parce que je sais que vous partez avec une grosse valise de médicaments. Voilà. Juste après le morceau de musique. Nico, une question d'une auditrice qui demande où on fait caca en Inde. Ah oui. Je sais pas, ça a l'air compliqué.
Il y a un rocher.
Je sens que l'émission tourne dans un drôle de sens quand même.
En fait, voilà.
Bah, on essaye de se cacher derrière la moto.
Voilà, parce que après,
non, on ne sait pas, on verra
on
bien.
On ne sait pas, on verra bien. Aussi, voilà. Et comment on se prépare physiquement? Alors. Chacun, hein, je sais qu'il y a, vous avez tous fait du sport là, vous êtes tous préparés. Il y en a qui ont fait du vélo, il y en a qui ont fait de la muscu, il y en a qui prennent leur tension tous les jours.
10 fois par jour.
10 fois par jour. Christophe, comment on se prépare?
Il faut regarder l'évolution. Non, mais je pense qu'il faut arriver là-bas avec une condition physique normale, pas besoin d'avoir des trucs extraordinaires. Mais il ne faut pas arriver là-bas avec, exemple, 80% de capacité pulmonaire. Sachant qu'arriver là-haut, on aura à peine 50 pour une personne normalement constituée, ce qui veut dire que quelqu'un qui a plus que 80, bah, il ne reste plus que 40. Et au bout d'un certain stade, manque d'oxygène et donc mal des montagnes.
Jean-Michel, ouais, qu'est-ce que tu as fait
comme... Je fais un peu de vélo.
Ouais. Du vélo d'appartement, du vélo sur la route.
C'est trop dur, du vélo d'appartement.
C'est trop dur.
Mais bon, à Mont-en-Pevel, ça monte pas mal.
Ah oui, ça monte. Ça, bah, t'as déjà la petite montagne.
C'est sportif.
Voilà, c'est sportif. Nico ?
En fait, il ne faut pas oublier que c'est quand même la moto qui va nous trimballer.
Oui, bien sûr. Hein.
Donc, c'est pas un trek en haute montagne. Mais c'est vrai qu'il paraît que on fait quelques mètres en courant, on est tout de suite calmé. Hein,
c'est déjà comme ça.
Donc la respiration augmente au fur et à mesure que l'air se raréfie. Il faut être en bonne santé. Il faut surtout... je pense qu'on essaie de bien dormir parce qu'on va faire quand même des longues étapes et on n'a pas beaucoup de périodes pour récupérer. La fatigue, elle risque de s'accumuler. Donc il faut y aller en étant reposé, je pense.
Albert ?
Moi, la préparation, j'ai surtout... je suis passé d'abord... j'ai fait le contrôle technique en fait. Hein. Je suis allé voir les médecins et puis voilà quoi. Je me suis dit oh là là, même si on fait du sport, il peut m'arriver un truc. Je vais d'abord vérifier que tout fonctionne bien. Et effectivement, donc ma cardio m'a mis un tampon apte. Elle m'a dit oui, c'est bon, vous pouvez aller en Inde, ça devrait aller. Votre capacité, justement, ce que disait Christophe pulmonaire, parce que ça joue, hein, c'est ensemble. Ouais. Et elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, vous êtes un beau petit jeune. Ça m'a fait plaisir.
Jean-Michel, pardonne-nous, mais Jean-Michel, il a fait quoi, Jean-Michel ? Jean-Michel, tu as fait quoi ?
Celle qui va nous accompagner aussi,
infirmière Béatrice.
Oui, infirmière Béatrice, alors tu as fait quoi ? Préparation physique un peu spéciale qui sort de l'ordinaire ?
J'ai essayé déjà de faire un peu régime pour être un petit peu plus à l'aise dans mes pompes. Au niveau sport, non, pas encore. Je me fais discuter tous les jours, mais...
C'est 14 juin, le départ.
Oui, mais il me reste encore un bon 15 jours.
Très bien. Voilà, donc on va passer. Donc un voyage comme ça se prépare pas comme ça sur une semaine. Hein. Il faut au moins 8 mois, parce qu'il faut le passeport, il faut aussi le visa et il faut aussi le permis international. Je sais pas si ça peut servir ce permis, mais il est préférable de l'avoir quand même.
Il est préférable de l'avoir, surtout le problème c'est que jusqu'en septembre de l'année dernière, on l'avait en une semaine. Moi je sais, pour l'Indonésie, j'avais demandé, la semaine qui suivait, je l'avais. Alors que là. Moi, en le mettant début novembre, je l'ai eu 3 bons mois après, et en ce moment, ils sont à plus de 4 mois pour l'avoir. Donc, c'est-à-dire que celui qui l'a, il l'a déposé pour mars, c'est même pas la peine d'y penser.
Le visa, on peut l'avoir sur Internet.
Mais aujourd'hui, il faut le faire par Internet. Alors, bon, pour moi, c'est pas très compliqué, mais le problème, c'est que pour certaines personnes qui sont un peu handicapées d'Internet, ça peut être compliqué.
Et on en connaît.
Oui,
on en
connaît. Dans le groupe, il y a quand même. Des personnes âgées, hein, dans le groupe, il faut le dire.
C'est pas rencontre du troisième type, c'est rencontre du troisième âge.
Vous avez la moyenne d'âge sur les 14 là,
Si on retire mon neveu et le fils à Jean-Michel, c'est plutôt dans les 60.
Ah, 60, quand même. Hein.
Ouais, 60. Hein.
Voilà. Et donc, on parle aussi Médoc, médicaments. Qu'est-ce qu'il faut prendre là-bas pour aller en Inde, sur le toit du monde, là-bas, dans l'Himalaya?
L'aspirine, c'est la première des choses, pour deux choses. Parce que ça va liquéfier le sang et ça va t'empêcher d'avoir mal à la tête. Et après, vraiment, si t'as mal, c'est...
Du Diamox.
Du Diamox, mais ça, alors... Il y a plein de contre-indications, par contre, cette chose-là.
Ça évite les maux de tête et les saignements de nez.
C'est surtout... il faut boire beaucoup, parce qu'il faut que tes reins fonctionnent absolument pour...
Alors, on a vu qu'il fallait boire entre 5 et 10 litres par jour, c'est ça?
Non, entre 3 et 5 litres d'eau.
Ouais. Entre 3 et 5 litres d'eau,
on se déshydrate énormément.
Ouais. Et puis,
on l'a jamais fait, ça.
On se déshydrate.
Et pas n'importe quelle eau, parce que.
L'eau des ruisseaux.
Justement,
contrairement à ce que tu peux penser, l'eau est mauvaise partout, mais celle des torrents, tu peux la boire.
Il faut prendre un espèce de cachet là, qui purifie l'eau.
Comme à l'Arbée, non.
Non, je sais pas.
Ça se vend en bouteilles de l'eau, t'achètes des bouteilles d'eau, et puis c'est tout.
Il y a un problème avec les bouteilles plastiques là-bas, ils commencent à interdire parce qu'il n'y a pas de recyclage prévu. Donc avec le flux de touristes, c'est toujours pareil, le tourisme de masse, ça vient tout polluer. Et donc il n'y a rien qui est prévu pour les bouteilles plastiques. Eux, ils boivent l'eau locale, les touristes boivent de l'eau en bouteille et ils balancent leurs bouteilles plastiques. Donc ils commencent à interdire l'eau en bouteilles plastiques. Donc effectivement, la solution, c'est de boire l'eau des torrents. On peut mettre un micropur dedans il faut attendre 2 ans dans ce cas-là pour le boire, et puis du coup on a l'impression de boire l'eau de la piscine. Hein.
D'accord.
Mais par contre, on a moins de chances de choper
un peu de javel.
Ouais, voilà.
Faut surtout pas boire l'eau du Gange.
On n'y passe pas.
Ça tombe bien, on n'y va pas.
On n'y passe pas.
À l'Indus.
Pourtant, on va sur l'Indus. On prend ça sur les Malayens.
Non, mais on va sur l'Indus. Peut-être on fera un petit peu de rafting sur l'Indus.
Bon, voilà.
Il y a un petit message de Christine qui part avec vous. Et il dit bon, ils ont l'air en forme. Moi, j'arrive de 20 km de VTT. Donc.
C'est bravo.
C'est bien. C'est bien, Christine.
Voilà, notre deuxième femme qui fait du sport. Voilà. Très bien. On a passé. Voilà, il y a encore des choses à dire. Vous pensez là sur ce fabuleux voyage quand même. Faut dire, c'est 15 jours, hein, du 14 juin jusqu'au 1er juillet. Hein.
C'est 2 semaines de moto, donc nous on arrive deux quand même 2-3 jours avant.
Et on n'a pas parlé des motos quand même, des Royal Enfield.
Royal Enfield, alors il y a plusieurs motos. Donc le gars au départ, il voulait nous refurguer les Himalayan, hein, donc c'est la nouvelle.
Non, ça c'est le nouveau modèle de chez Royal Enfield.
Un trail, ouais.
Fait alors, pour ça d'ailleurs, hein. Il est conçu pour ça. Conçu
voilà, pour aller sur les fait pour ça. Et donc, dans le groupe, il y en avait quand même pas mal qui voulaient avoir de la bulette normale. D'ailleurs, le mec est assez surpris, normal, parce qu'il y a plein de sortes de bulettes. Hein. Il y a des bulettes avec des selles comme ci, comme ça. Donc,
oui, c'est le moteur, c'est monocylindre, c'est un 500 cm3.
Oui, 500, ouais. En 500, hein, pas en 350. Et donc, dans notre groupe, il y en a 8 en Himalayan et 6 en bulette normale. Voilà.
Voilà. Et donc les Bayan, c'est le fameux, c'est un nouveau moteur en fait qui n'a rien à voir avec.
Voilà, c'est un 410 cm3 avec un arbre à cam en tête quand même.
Voilà, c'est ça, oui.
Mais par contre, la puissance, elle est de 26 chevaux.
27 chevaux, je crois.
Les deux moteurs sont proches au niveau caractéristique, mais
c'est pas exactement faire des excès de vitesse en France.
Albert, qu'est-ce qu'on pense? T'as pris une Himalayan ou une Bulette?
Ah, j'ai pris une Bulette. J'ai dit tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. On disait tout à l'heure, on a échappé à la circulation New Delhi. Bon voilà, et maintenant j'espère que la moto va tenir le choc et qu'elle va pas m'exploser dans la tronche, mais normalement effectivement c'est solide et ça a fait largement ses preuves. Il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je suis resté avec à l'authentique, on va dire.
La boulette, elle permet de faire un voyage dans le temps en même temps.
Oui, voilà, c'est ça.
Exactement. Elle est produite en
Il faut revenir sur l'histoire. J'ai fait un peu l'historique de Royal Enfield, hein, qui était d'abord une marque anglaise. Hein.
Britannique, tout à fait.
Britannique. Hein.
Qui n'est pas, enfin je veux dire, c'est pas si vieux que ça.
1800.
Oui, non, mais quand ça a fermé.
1800.
Ils en ont fait jusqu'au début des années 70, fin des années 60.
Ouais, en 57 ça fermait.
57.
Ouais. 57, même la 750 Interceptor.
Ouais, et après ils avaient du stock, ils ont continué jusqu'en années 60 avec le stock à le vendre. Aux États-Unis sous la marque Indian.
Oui, voilà.
Et puis ils ont continué à vendre comme ça. Et puis c'est dans les années tout début des années 80 qu'ils ont commencé à revendre les motos qui produisaient. En Inde, parce qu'il y avait une usine en Inde, tout près de Madras, à Chennai.
Il y a marché de la classique et de l'authentique aussi, qui a fait que ça a permis peut-être de booster un peu les ventes.
Oui, d'abord, c'est la mode, parce que c'est joli. Il y a les prix aussi, et puis
aujourd'hui, maintenant...
c'est
pas cher.
C'est pas cher. La boulette de base, elle est construite.
La boulette de base.
Elle est construite vraiment quasi à l'identique, à part le moteur qui a dû évoluer à cause des normes anti-pollution, mais elle est construite quasi à l'identique qu'elle l'était en 1957.
C'est la question aussi, est-ce que ce sera des motos à carbu ou à injection? Parce qu'ici, elles sont à injection.
À carbu.
Donc carbu pour
le réglage en montagne.
Pour le réglage en montage, en montagne, c'est pas
de toute
c'est
façon
pas facile.
Vraiment quand tu montes en haut d'école, si
mieux.
Tu regardes bien,
c'est mieux.
Même pas rouler vite, doit pouvoir l'envie.
Oui. Elle voudra pas.
Donc de toute façon, la question sera réglée.
Elle aura pas suffisamment d'air pour.
Elle va être comme nous en fait.
Non, mais hormis ça, l'état des routes nous permet pas de rouler vite
elle aura
en haut d'école.
Donc
la moto n'ira pas vite non plus.
Voilà, très bien.
Tout à fait.
On a abordé tous les sujets, tous les problèmes et
après,
puis aussi
on espère que l'Indien qui nous organise sera pas un cow-boy.
C'est-à-dire
c'était pour le jeu de mots, je crois.
Non.
C'est-à-dire.
Parce que moi j'ai toujours eu inquiétude parce qu'en fait on fait confiance à quelqu'un à l'étranger qu'on n'a jamais vu pour organiser qu'on connaît pas et on lui envoie des sous tout le machin et peut-être qu'il sera parti aux tropiques quand on arrivera. Hein.
Alors tiens, on va faire un petit peu la comparaison roupie là, avec un euro. Je crois qu'un euro c'est 71 roupies.
100 ouris.
100 ouris.
C'est 80 roupies l'euro, là, en ce moment.
Et 80 roupies, c'est presque le salaire.
Eux, ils gagnent. Alors,
c'est
vraiment,
le salaire de base.
Le salaire, c'est 60 euros. Ils
gagnent, 60 euros. Un euro, quand vous donnez un euro, c'est un salaire sur un mois.
Oui, mais ce qui est vrai, dans tous les pays, là, dans tous ces pays d'Asie, où ils gagnent 3 clopinettes.
Très bien, voilà, on va passer au sujet. On va parler après trail avec Nord Enduro Trail. Voilà. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes un beau voyage.
Et j'espère qu'on pourra revenir pour raconter notre périple.
Et on fera un débriefing.
Notre aventure.
Attends, moi, j'espère simplement qu'on va revenir.
Merci.
On fera un debriefing. Jean-Michel, hein. Jean-Michel Bonomo. Allez, le dernier mot pour toi. Ouais, là.
Bah, moi, je l'ai essayé, l'Himalaya, la bulette. C'est une grosse bobulette.
Hein. Ouais, d'accord.
Moi aussi, je l'ai essayé. Ça fait vraiment le caractère d'un 500 XT, en fait.
Oh, voilà. Peine. Ouais.
Oh, si, si. Voilà. J'ai essayé, c'est le cas injection. Hein. Voilà.
Ah, ouais. Ouais.
Voilà. Très bien.
Moi, j'ai essayé une acarbu.
Ah, oui. Et on passe un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Salut.
Magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30. Patricia, nous allons parler, nous allons rester dans le sujet finalement. Hein. Voilà, on va parler donc trail avec Nord Enduro Trail, Luc, notre invité dans les studios.
Luc Mekil qui nous fait le plaisir de participer à l'émission aujourd'hui. Et donc moi, un grand regret, pourquoi Luc, je n'ai pas pensé à t'inviter avant et te faire rencontrer toute cette équipe là qui va partir aussi loin. Et tu aurais pu les entraîner au cours de ce que les sorties que tu organises toi-même régulièrement, parce que Nord Enduro Trail propose un planning vraiment bien rempli sur toute l'année. et ils auraient eu de quoi vraiment s'aguerrir pour leur périple. Donc, Nord Enduro Trail, Luc, c'est une association.
Oui, loi 1901, donc à but non lucratif. Donc en gros, j'ai créé le club pour effectivement faire connaître le monde off-road à pas mal de gens et je voulais que ce soit accessible en fait, tout simplement. Donc en gros, tout ce qu'on demande, c'est une adhésion de 50€ par an et les randos sont gratuites en fait après. Ces 50€, ça nous sert tout simplement à investir dans des GPS, à faire des recos et voilà. Donc c'est juste ça. Ensuite, à côté de ça, on fait des sorties, enfin on fait des présentations d'événements. On avait par exemple été au circuit de la Vilaine où on a fait un événement complètement gratuit. On a fait en mode barbecue, etc. Et les gens sont venus gratuitement et ont découvert le circuit de la Vilaine. Il y avait une initiation enduro. On avait ramené des motos avec notre partenaire, je peux le citer, je ne sais pas, c'est Bonduel Moto à Cambrai, hein, qui nous assiste parce qu'en fait, on est partenaire aussi avec une marque de moto française enduro qui est Sherco. Donc, je voulais en parler parce que c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Il y a quand même une marque de moto française ici en France qui est vraiment l'équivalent de KTM. Donc, et j'ai mon petit fiston qui fait partie en fait de l'équipe Sherco, en fait, le team Sherco. Et ben voilà, donc il nous aide beaucoup. Et on voulait faire un retour aussi avec des événements gratuits, etc. Quoi, bon, pour rendre accessible tout ça, quoi.
Bonduel Motorsport, c'est aussi un des partenaires du calendrier qui nous soutient chaque année. Et donc, c'est par le calendrier, effectivement, que moi, j'ai pu découvrir Nord Enduro Trail. Parce que le week-end dernier, il y avait déjà le Trail Raid Impérial qui était proposé. Mm-hmm. Et en début juin, donc là, c'est trop tard, c'était Valenciennes-Pierrefonds, c'est trop tard. Et vous n'aurez plus qu'à aller regarder les superbes images qui ont été postées sur YouTube, sur le site aussi, pour les différentes sorties. Là, je ne sais pas, sur Valenciennes-Pierrefonds, c'est déjà en ligne, je n'ai pas vu.
Pas encore, j'ai pas eu le temps.
Mais donc on va parler surtout, c'est de la sortie début juin qui aura comme destination le Touquet. Voilà. Mais juste en préambule, on va dire que ces sorties, elles sont toujours faites sur le même principe. Hein. C'est donc 2 jours.
Voilà, c'est 2 jours. L'idée, c'est de faire un raid, de se retrouver le soir, manger ensemble autour d'un petit bivouac et puis d'un repas sympa. Le programme, c'est 250 km d'off-road par jour avec des gros trails, des maxi-trails. Donc, c'est vraiment des pistes adaptées. C'est pas du technique, c'est pas de l'extrême. Hein. Donc, on va avoir des 1200 GS qui vont venir, des 1290 KTM. Enfin, il y a vraiment de tout, jusqu'à la 500 XT d'il y a quelques années. Donc, c'est ce qui fait. C'est ce qui est assez sympa. Grâce à cet événement, le soir, on peut dialoguer ensemble, partager nos expériences, etc. Ça, c'est vraiment fun, quoi.
Donc, c'est en mode baroud avec Doc Bivouac.
Voilà, l'idée, c'est. L'idée, c'est effectivement de se faire un petit camping pour faire découvrir en fait ce que c'est la partie aventure. Hein, ce que s'il y a des gens qui veulent être confrontés un jour aller se balader au Maroc ou autre, bon ben s'ils veulent y aller tout seuls, ben allez, c'est une petite expérience de 2 jours de raid. Ça leur donne déjà une idée. Et puis, j'ai pas mal de débutants qui viennent, en fait, quasiment tous les ans. Ils se posent pas mal de questions. Ils disent, tiens, est-ce que je suis adapté? Enfin, est-ce que ça va le faire, etc. Ben, vous venez. Au pire, vous faites qu'une journée. Si vous êtes fatigué, vous rentrez. Il y a toujours un itinéraire qui est proposé, qui est on-road aussi. Hein. Donc, en parallèle, ils peuvent rejoindre l'itinéraire on-road. Et puis, voilà. Le principal, c'est de se retrouver, de ne pas se blesser. Enfin, voilà, dans un esprit sympa. Après, bon, on a une petite assistance de bénévolat. Hein, donc, en fait, c'est un petit mécano qui vient nous aider, qui s'appelle Ludovic Berthelot, où j'ai d'autres partenaires qui sont venus. Là, j'ai un ami qui s'appelle Thomas Roger, qui est venu nous aider au TRI, qui habitait du côté de Pierrefonds, qui a fait l'assistance en 4x4. Là, je pense qu'il y aura Calm Motowork qui va nous aider à la sortie du TRB. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit bouclair du coin qui vient de s'installer il y a 1 ou 2 ans. Donc, ben voilà, on a un partenariat aussi avec lui. Et tout ça, on essaye d'aider un peu tout le monde dans le milieu. Là, j'ai rencontré, j'étais pas censé être être dans les studios. Hein, j'ai fait une reco pour valider l'itinéraire hier. Donc j'ai fait 400 km en une journée pour essayer d'être là ce matin. Et puis j'ai rencontré en fait tout simplement des petits partenaires qui vont nous aider à manger lors du raid. Donc là, il va y avoir Rachel à Anvin qui va nous aider, une petite friterie sympa, on va manger en mode snack. Et puis sur le retour à Hesdin, il y a Christine qui a eu des déboires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y avait sa caravane friterie qui avait brûlé il y a 2 ans. Et là, elle s'est installée. Donc on va lui donner un petit coup de pouce aussi en passant, quoi. Voilà.
Mais ça se ressent fort, cet esprit-là, de très, très chaleureux, convivial, sur les difficultés, même à certains moments, il y a de l'entraide.
Il y a toujours de l'entraide, c'est pour ça en fait. Bon, il y a une assistance, mais on privilégie l'entraide entre participants. Et nous, on est là quand même. On ne le dit pas, mais on est là. Donc l'idée, c'est que les gens essayent de se débrouiller, mais au cas de coup dur, on est toujours là, quoi. Moi, je suis motobalais, hein, donc le jour du raid, je ramasse tous les derniers et puis j'aide un peu tout le monde. Donc voilà, quoi.
Moi, je trouve que ce qui est phénoménal quand même, c'est cette possibilité de démarrer. Quand on n'a pas d'expérience, voilà. D'avoir les bonnes conditions accessibles. En plus, c'est dans la région. Il y a un super calendrier, donc je disais 2018, ouais. Ouais. Avec des sorties quasiment...
Il y a quasiment 2 sorties par mois. Bon, en enduro, beaucoup plus qu'en trail, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup plus d'enduriste que de trailiste. Mais le mode trail, au final, c'est bien adapté par rapport au raid, quoi. Donc, et les adhérents du club participent avec moi au reco. Et en final, ça fait quand même pas mal de sorties trail aussi, quoi. Il y en a facilement une par mois aussi, hein. Donc après, bon, on a une vie perso aussi, quoi.
Mais se confronter aux conditions un peu de l'extrême, ça peut être rien qu'en participant à la sortie du Téléthon.
Oui, parce oui, que voilà,
celle bah, de en fait, 2017, elle était homérique.
C'est ce qu'on voulait. On voulait. Voilà, on essaye de cet esprit d'entraide aussi avec le Téléthon. Bon, voilà, on a fait participer un peu tout le monde. Il y avait une 20aine de participants qui sont venus, qui ont reversé une 10, 15, 20 euros comme ils voulaient. Et on a reversé l'intégralité de cette somme-là, évidemment, au Téléthon, quoi. Donc ça, on va le refaire cette année, c'est certain. Ça a bien plu à tout le monde, quoi.
Le prix du week-end est totalement accessible, en tous les cas, pour donc les sorties de 2 jours, c'est 120 euros tout compris.
120 euros tout compris, effectivement, il n'y a rien à rajouter. Alors, vous-même, pour le lendemain, le retour, on vous fait un petit sandwich, là, pour être sûr que vous n'allez pas mourir de faim.
Ah non, là, vu le nombre de baguettes prévues, tout ça, et le plus, les participants ne meurent pas de faim.
Non, ça va. Tout ça dans un esprit familial, hein, parce que bon, je suis aidé par toute la famille et puis par mal d'amis, donc voilà, c'est vraiment pas une société voilà à but lucratif, c'est l'esprit entraide familial, et bon, les gens quand ils viennent, ils découvrent cet aspect là quoi.
Donc le nombre de motos, en l'occurrence, hein, pour la sortie des 9 et 10 juin, comme pour celles qui sont annoncées dans le calendrier, est limité à 100.
Oui, je peux. En fait, honnêtement, déjà 100, je suis au maximum pour que ça reste à taille humaine. Et j'aime bien parler avec tout le monde, enfin voilà, que tout le monde puisse se parler. Et au-delà, de toute façon, on ne saura pas faire, quoi. Donc 100 avec une équipe d'une dizaine de bénévoles, voilà, c'est 1 pour 10. Le ratio, c'est vraiment tout juste, quoi.
Voilà. Ouais. On ne peut qu'inviter les auditeurs, Luc, à aller sur le site de Nord Enduro Trail. Ouais. Et puis aussi de découvrir. La condition, finalement, c'est d'avoir, quand tu disais, bon, les motos, c'est quand même assez large. Hein, mais le conseil est quand même donné de se fournir en pneus adaptés.
Voilà, il faut l'idéal. Enfin, voilà, maintenant, des pneus tout-terrain, c'est pas très cher. C'est 50aine d'euros le pneu. On va avoir en plus encore un nouveau partenaire bientôt, je veux le citer. C'est Mitas, donc qui va nous aider aussi. Donc pareil, hein, c'est des pneus vraiment accessibles, pas trop chers, 50aine d'euros le pneu. Et franchement, qui tiennent bien, qui tiennent vraiment bien, quoi. Donc oui, effectivement, pour la sécurité, alors effectivement, des pneus à crampons, on souhaite en fait que les gens viennent équipés avec des bottes tout-terrain, des genouillères, éventuellement un gilet de protection. On se fait des petites chutes en tout-terrain, il ne faut pas se cacher, mais c'est à très basse vitesse, donc on se blesse pas souvent, ça peut arriver. Et une fois qu'on est protégé, ben voilà, en général, il n'y a pas de souci, quoi.
Alors, vous voulez essayer le tout-terrain, ben voilà, vous avez tous les renseignements pour le faire. Merci, Luc.
Merci à vous.
Téléphone, Patricia, nous avons Laurence Catherine, c'est la présidente des motards de Langres.
Non.
Ah, et... mince, je me suis trompée. Voilà.
Et pourtant, tu l'avais bien rédigé
ben oui,
sur ton
bien rédigé, voilà,
au niveau des sommaires.
Allez, ouais, moi, ça arrive.
Bonjour Laurence, déléguée culturelle à la mairie d'Albert.
Voilà, tout à fait, adjointe à la culture à la mairie d'Albert.
Et donc, un petit rappel hein, pour nos amis motards, parce que le 9 juin, il y a donc le festival Albert on the Rocks pour une première.
Oui. Hein,
il est bien annoncé comme un événement qui devrait perdurer parce que il va donc privilégier le rock, mais pas que le rock, il va y avoir aussi...
Il va y avoir aussi une concentration de motos dans la pure tradition, c'est-à-dire chaque motard peut exposer sa machine devant la gare d'Albert, échanger avec les autres pilotes. Il y aura toujours, bien sûr, des motos d'exception qu'on peut regarder sur toutes les coutures. On peut poser des questions et puis y mettre sa bécane. Et après, tranquillement, aller écouter la musique des différents groupes qui sont locaux. Donc on a 120, Echoes, Pix, The Restless. Et tout ça, c'est le samedi 9 juin à partir de 15h à l'esplanade de la gare. Et à 21h, on a donc le tribute à CDC High Voltage.
Avec un groupe suisse qui a déjà de l'expérience.
De l'expérience
bien connue, ouais.
De la renommée.
Voilà.
Et puis par contre, au niveau de la concentration moto, c'est le club de moto d'Albert, les motards de l'Ancre, avec son président Stéphane Pellissigean, qui nous ont aidés à l'organiser et puis qui vont pouvoir bien mettre les motos de manière à ce que tout le monde puisse les voir au maximum. Voilà.
Alors, il faut rappeler que les routes autour d'Albert sont des superbes routes pour rouler en moto.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on peut se balader autour de la ville. Bon, ça, cette année, c'est absolument pas géré par le club. Donc, vous venez quand vous voulez. Et puis, il y a de très beaux sites. Alors, on est à la fois sur le patrimoine, parce qu'on est sur tout ce qui est les commémorations et puis les sites Quête-Thiemval, Beaumont-Hamel, tout ce qui est monuments et cimetières. Et puis aussi, on est dans un milieu de verdure et de paysages magnifiques, avec des côtes, des vallons. On peut aller voir au niveau des belvédères de Frise, on peut observer les marais aux alentours de Méricourt. Enfin, je veux dire, on a à la fois l'association de la balade, de l'histoire. On peut s'éclater en moto pour pouvoir regarder tout ça.
Voilà, et la municipalité a décidé de miser sur le rock, hein, comme une valeur sûre, intergénérationnelle.
Voilà, le rock, mais en bonne ambiance, avec aussi un village d'exposants. On a une quinzaine d'exposants qui sont à la fois pour la musique et à la fois pour la moto. On trouvera du flocage, on trouvera un exposant qui fait des objets en récupération de moto. Il va y avoir aussi une tombola où on a une belle guitare à damier. Il y aura de la restauration sur place, divers moyens de manger, pizza, frites, boissons, etc.
Alors le bonus, c'est entrée libre et gratuite.
Entrée libre, gratuite, surveillée, et ça c'est important, oui. Parce que les motos sont surveillées à la fois par les motards de l'Ancre qui aident à l'organisation, et à la fois par un service de sécurité. Donc le tout dans une bonne ambiance sécurisée où on regarde, et juste avant ou après votre visite, à ce moment-là, vous pouvez être dans un site magnifique de région et de patrimoine, et là, de belles sorties en perspective.
Mais écoutez, merci Laurence, merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de motards de Kikinkout et Toupal qui vont venir sur place, on le rappelle.
Alors, écoutez, merci, parce qu'on a besoin de cette première édition pour avoir un maximum de motards. Tous les clubs indépendants du nord de la France ou d'ailleurs sont les bienvenus. Et puis plus on réussira, puis plus on pourra recommencer l'année prochaine avec d'autres animations peut-être beaucoup plus complètes, avec des circuits que nous organiserons et puis autre chose. Donc venez, découvrez et puis participez à notre premier festival Albert on the Rocks.
Avec plaisir Laurence. À très
Merci
bientôt.
Beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.
Go.
Allez, au téléphone, nous avons Serge. Alors là, j'espère que je ne me trompe pas, Patricia, présidente de l'Amicale des handicapés de Fâche-du-Ménil.
Oui. C'est bien ça, oui.
Voilà.
Bonjour Serge.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Et c'est important, c'est pour évoquer la parade moto qui aura lieu à Fâche-du-Ménil le 9 juin.
C'est bien ça, le 9 juin à Fâche-du-Ménil à la salle Jacques Brel. Donc on espère de tout cœur d'avoir beaucoup de motards qui vont répondre à notre appel en sachant que c'est pour une bonne œuvre, c'est pour des handicapés intercommunales. Oui. Donc voilà.
Donc c'est une journée américaine.
C'est une journée américaine. Donc dans l'après-midi, on espère d'avoir le plus de motards possible. Il y aura un orchestre rock qui va animer. Et en soirée, country aussi.
Oui, un beau bal country et plus, hein, il n'y aura pas que de la musique country. Et
non.
Donc, avec une entrée qui est vraiment très, très raisonnable, 4 euros, c'est gratuit pour les enfants. Une petite condition, il y a la réservation qui est obligatoire. Donc, on rappellera le numéro dans le sommaire de notre programme, mais on peut le dire, hein, c'est auprès de Séverine. Et il faut donc pouvoir se manifester au 06 10 29 12 57. Et
c'est
aussi, pour est-ce que les motards doivent téléphoner avant pour signaler leur présence le 9 juin ?
Non, parce qu'il y aura il y a un collègue motard, enfin ils sont à deux collègues motards, Jean-Marc et Eric, hein, que c'est grâce à eux. Parce qu'il y a une petite association sur la commune de Fâche-du-Ménil, et c'est grâce à eux qu'on peut faire ça, quoi. Donc j'ai même découvert moi-même les motards, parce que j'étais pas motard du tout, et donc depuis ce temps-là, je voyage pas mal le week-end, je suis allé à Pétancourt, j'étais un peu partout, quoi. Donc je voyage de plus en plus à regarder tous ces gens en moto, quoi. Et puis voilà, quoi.
Ça va peut-être finir par un permis.
Peut-être.
Bon, en tous les cas, il faut bien repérer, hein, le 9 juin. N'hésitez pas à participer à cette journée qui s'annonce conviviale et chaleureuse, une journée de fête pour aider, hein, l'Amicale des handicapés dans toutes les actions qu'elle peut faire tout au long de l'année. Et elles sont nombreuses. Et donc, allez voir sur le Facebook, hein, vous en aurez une idée.
Voilà, parce que nous, notre but surtout, c'est toute cette manifestation qu'on fera ce jour-là, c'est pour faire partir une quarantaine de jeunes handicapés, malheureusement, les trois quarts qu'ils ont perdu, les parents qui sont seuls, et nous, on les fait sortir, on leur paye un voyage en Gironde, hein, pendant 3 semaines. Voilà.
Mais c'est un bel objectif. Et j'espère qu'il y aura de nombreuses personnes qui viendront participer à ce rêve pour tous ces jeunes. Merci beaucoup.
Oui, c'est un rêve pour eux. Et puis, en plus, ils vont être là. Ils vont avoir les yeux émerveillés de voir tous ces motos, ces belles motos qui vont paraître sur le parking de la salle Jacques-Brel. Voilà.
Merci beaucoup, Serge. On espère que le message est passé.
Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous.
Bonne journée.
Et un grand merci pour
vous. Je vous en prie.
Voilà. Merci.
I wanna stick to you like white on white, so come on, baby.
magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30. On repart avec Luc de Nord Enduro Trail.
Oui,
Patricia.
Et avant de donner la parole à Luc, je vais juste vous présenter un événement qui va avoir lieu les samedis 2 et dimanche 3 juin à Ohain. Ohain qui est un village de l'Avesnois, de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe. Et il y aura une concentration de véhicules d'époque, voitures et motos. Il y aura aussi des concerts, c'est assez ambiance rockabilly. Bon, alors je vous donne encore un détail, peut-être pour motiver les plus récalcitrants. Il y aura la célèbre effeuilleuse Chérie Bibi. Et donc, ça s'annonce comme un beau week-end. Toute la commune s'emploie à préparer pour accueillir le plus de monde possible. La soirée est payante hein, pour le concert du samedi soir, c'est 8 euros, il faut réserver auprès de la mairie. Là aussi, on va vous mettre toutes les indications dans notre sommaire. Le samedi, c'est à partir de 16h, le dimanche, 15h. N'hésitez pas, c'est une belle occasion de découvrir un joli village. Et justement, Luc, je me tourne vers toi, d'avoir ces sorties, hein, où tu privilégies le Nord et le Pas-de-Calais, donne l'occasion de redécouvrir la région.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est effectivement au travers des... Il y a des beaux paysages dans le Nord, et je pense qu'on font effectivement dans le Nord-Pas-de-Calais, on va dire ça comme ça, les Hauts-de-France. Et les gens ne connaissent pas forcément bien leur région, parce qu'on a l'habitude de pratiquer les routes, mais quand on part en off-road, on voit un autre aspect. C'est un peu comme en VTT, vélo de route et VTT, c'est pareil, moto de route et trail. Et la différence, c'est que je pense qu'on voit plus de beaux paysages en trail ou en VTT qu'en route. Et bon, effectivement, l'année passée, j'ai eu, lors du Trail Red Beach, hein, un retour d'une personne qui habitait pas loin de Merlimont en me disant bah, j'avais jamais passé à côté, c'est à 10 km de chez moi, je connaissais pas ces beaux paysages là Luc, tu m'as fait découvrir mon coin. Donc ça, c'est toujours assez assez rigolo d'apprendre ça, et puis effectivement ça fait plaisir. J'ai eu pas mal de retours de ce type là quand on parcourt les Sept Vallées, qu'on parcourt les collines de l'Artois, tout ce Pas-de-Calais là qui est superbe hein, au final. Et pareil au nord de Paris et dans l'Oise, il y a de très beaux coins autour de Laon aussi. La ville de Laon, elle est très belle à visiter déjà, mais aux alentours, c'est beau aussi, quoi. C'est toujours un peu vallonné, c'est juste ce qu'il faut pour la moto. Je pense que c'est bien d'adapter, c'est pas trop hard. Et voilà, c'est sympa, quoi.
Et en sillonnant les chemins comme ça, tu fais encore des découvertes ?
Ah oui, tout le temps. On essaye de varier tout le temps. De toute façon, donc déjà, il y a des interdictions qui fleurissent de temps en temps, donc il faut les contourner. Et puis au final, ça apporte toujours un petit plus, parce que ça nous force à aller voir ailleurs, quoi. Et voilà, il y a plein de beaux chemins en fait hein, dans le Nord. Voilà.
Et donc, là, tu citais justement un passage, on va dire, de guet qui t'a surpris.
En fait, on a découvert un beau petit chemin. Je ne vais pas dire où il est, parce qu'il ne faut pas non plus... Il faut laisser les gens tranquilles, quoi. Mais effectivement, un petit guet, on va dire, en réalité, c'est un chemin avec la rivière qui vient se déverser dedans. Et ça dure quasiment 500 mètres de traversée comme ça. On a les pieds dans l'eau, les roues dans l'eau, donc sur 10-20 cm, voilà, donc c'est assez sympa à voir, et voilà, c'est cool, quoi.
Alors, je me répète, ouais. Mais suivez Luc, essayez une sortie, et je pense que vous allez découvrir la moto, mais totalement aussi autrement que sur la route, et que l'off-road va vous réserver plein de surprises, et puis vous allez vous rendre compte que c'est totalement accessible.
Voilà.
Some shit.
voilà, alors nos amis qui vont tenter d'escalader ces fameux sommets de l'Himalaya sont revenus dans les studios. On leur a demandé de venir vous dire au revoir.
Escalader, c'est peut-être un peu fort quand même.
Il y a quand même des grands sportifs Christophe, allez, voilà. 4000 mètres ont du mal.
Voilà, l'émission se termine. Il me reste 3 minutes là. Est-ce qu'on peut dire, on a oublié quelque chose peut-être tout à l'heure? Non? Pour cette fameuse balade.
On aura plus de choses à dire.
Voilà, ouais, c'est mon avis, c'est plus de retour. On va découvrir aussi.
J'étais sur un site là, en fait, ce problème de caleçon, ça m'inquiète parce que, bon voilà, Albert, il dit comment on va faire, on va en prendre qu'un. J'ai vu des trucs en papier.
Ça
s'appelle des couches.
Oui, c'est ça. Il y a une super marque qui s'appelle Tena. Et donc là, je vois pour qu'on soit sponsorisé. Et je pense qu'ils nous fourniraient donc quelques paquets pour la route.
Voilà.
Non, mais il faut y penser. C'est vrai qu'on va passer quelques heures en selle.
L'avantage, c'est que
Heures en selle, ça va être compliqué.
T'es pas obligé de t'arrêter. En fait, tu peux.
Avec la Téna, tu peux rester. Et c'est chaud. Voilà.
S'il fait moins 5, c'est bien.
Alors, je rigole, mais j'espère pas.
Voilà.
Parce qu'à 14, s'il faut arrêter toutes les 5 minutes, ça va être compliqué. Parce que tout le monde n'aura peut-être pas envie en même temps.
Ça, c'est le problème. Parce qu'il
faut du papier.
Vous imaginez, ça fait un convoi pas possible. C'est
exceptionnel.
Comment ?
Beaucoup d'inertie.
On n'a pas parlé de ces fameux problèmes de ravitaillement d'essence.
Il y
a encore plein de choses à dire là-dessus.
Et le ravitaillement, il faut dire aussi que ça consomme 3 litres au 100, que tu as l'air de 15 litres.
Oui, on pourra faire 600 bornes, ça va aller. Donc on pourra s'arrêter.
On fera l'étape avec le
plan. Il y aura de l'inertie.
Voilà. Très bien. Bon, la mission se termine. Merci, mesdames et messieurs.
À très bientôt, alors.
J'espère
aussi.
Oui.
Luc, merci d'être venu dans les studios de campus.
Rendez-vous aujourd'hui le 9 juin si vous voulez venir me voir au départ de BMW Ronchin. Vous serez les bienvenus.
D'accord.
N'hésitez pas.
Oui. Bon, voilà. Merci Laurent d'avoir suivi l'émission avec les fonds musicaux.
C'est la moindre des choses d'avoir suivi l'émission.
C'est bien que tu sois là.
Ça m'arrange.
Notre commandant de bord.
Voilà. Et moi, j'ai une petite pensée pour ma copine Christine qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous écoute.
Elle écoute.
Et passez un bon dimanche. Il fait beau.
Bonne fête, maman.
C'est la fête des mamans. Effectivement, bonne fête, maman. Voilà. Très bien. Christophe.
Ah, moi, je dis pas bonne fête, maman. Elle écoute pas.
Ah bah voilà. Tant pis. Voilà. Allez, à dimanche prochain. Au revoir.
Au revoir.